Bonsoir à tous. J'aimerais qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 46. On va lire un texte assez long juste après, dans Ésaïe aussi. Mais avant, j'avais envie de l'introduire par ce passage. Au verset 9, je commence la lecture. « Souvenez-vous des premiers événements, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon, et j'exécuterai tout ce que je désire. J'appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine l'homme qui accomplira mes projets. Ce que j'ai dit, je le fais arriver. Ce que j'ai conçu, je l'exécute. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, si éloignés de la justice. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion pour Israël, ma parure. » Ici, juste dans ces quelques versets, on a quand même une preuve encore, une grande preuve, je dirais même, de l'amour de Dieu. Dieu, on a un autre verset d'ailleurs qui nous dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes. Le Seigneur ne fait rien sans nous le dire. Je trouve ça beau quand même. Là, ce texte nous dit qu'il ne fera rien, rien, sans avoir annoncé auparavant ce qu'il allait faire. Alors on peut le comprendre de diverses manières. On peut se dire, ben moi Seigneur, si tu veux me donner un secret, je veux bien. Et pour qu'il l'annonce, il faut bien qu'il l'annonce à quelqu'un d'abord. Alors, à qui va-t-il annoncer pour des choses peut-être qu'il compte faire? Ici, on sait que dans la parole de Dieu, on a tout. On a déjà tout. Et s'il nous annonce à l'avance ce qui va arriver, c'est bien parce qu'il veut que nous soyons prêts, il veut que nous ne soyons pas dépourvus, il veut que, au contraire que de regarder au sol, eh bien, on commence à lever la tête. Parce que justement, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse être en paix. Alors que peut-être à l'extérieur, en regardant, on pourrait se dire, Seigneur, où est-ce qu'on va? On pourrait se poser la question, on se dit, mais Seigneur, c'est pas possible, il faut que tu fasses quelque chose. On serait terrorisé si on n'avait pas ces points d'appui que le Seigneur nous donne. Mais il nous avertit. Dans son amour, et c'est là que j'aimerais aussi qu'on puisse comprendre, parce que le Seigneur veut bien délivrer ses secrets à ses prophètes, mais justement, on en a un certain nombre de secrets qui sont dans la parole de Dieu. Qui s'y intéresse à ces secrets? C'est pas le tout de demander à Dieu, Seigneur, montre-moi, Seigneur, révèle-moi. Mais si déjà des choses qui nous sont révélées dans la parole de Dieu, on ne s'y intéresse pas, le Seigneur, il le voit, ça. Il le voit, si dans mon cœur, je m'intéresse aux choses qu'il a révélées. Si dans mon cœur, je m'intéresse à en savoir plus sur ce qu'il va faire, mais même sur lui-même. Parce que ceux qui aiment Dieu, ceux qui ont mis leur vie en règle avec Dieu, vont passer l'éternité auprès de lui. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est peut-être tout aussi bien d'apprendre à le connaître avant. Et pour apprendre à le connaître avant, mais ça passe par la lecture de la parole de Dieu, parce qu'on apprend à découvrir des facettes du Seigneur. Bien sûr, on aura une connaissance parfaite que quand on sera dans sa présence, qu'il nous aura révélé la totalité. Mais si on a sa parole, c'est quand même qu'il veut nous dévoiler qui il est. Il veut que nous puissions le découvrir. Et à celui qui le cherche de tout son cœur, Le Seigneur pourra lui révéler des choses. Alors que quelqu'un va se dire, bah, tiens, moi je vais regarder des prophéties qui sont écrites dans Isaïe, dans Ézéchiel, même dans les livres des petits prophètes, je vais essayer de les comprendre. Celui qui de tout son cœur s'applique, le Seigneur peut lui ouvrir les yeux. Et si le Seigneur nous dit les choses avant qu'elles arrivent, c'est pour qu'on puisse vraiment avoir un point d'appui, qu'on ne soit pas perdu quand les choses, quand les jugements vont tomber, quand il y aura vraiment de quoi s'inquiéter. Celui qui n'a pas pris appui sur des promesses que Dieu nous a laissées, sur justement ces avertissements, ces prophéties qui sont écrites noir sur blanc dans la parole de Dieu, eh bien, on pourra s'inquiéter. Mais ayant ces points d'appui là, eh bien, nous qui sommes chrétiens, eh bien, on a une assurance, on a une espérance. Et au même titre que le Seigneur nous dit, relevez la tête, quand vous verrez tout ces tas de choses, il décrit tout un tas de signes qui correspondent d'ailleurs à ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Le Seigneur, il ne nous dit pas, mais quand ces choses-là arriveront, le temps sera venu de vous inquiéter. Non, il ne dit pas ça. Il dit, relevez vos têtes, car le jour de votre délivrance approche. On a des points d'appui. Et en tant que chrétien, il nous faut savoir nous en servir. Déjà peut-être pour quelques-uns, savoir où ils se trouvent. Parce que le Seigneur nous a annoncé d'avance des choses. J'aimerais qu'on lise le chapitre 24 et une partie du chapitre 25 d'Ésaïe justement. On connaît souvent Matthieu 24 concernant le signe de la fin des temps, le jugement de Dieu. Et on en parlait juste avant la réunion. Des fois, il y a des numéros de chapitres qui correspondent. C'est bizarre, hein ? Ésaïe 24 parle aussi d'un temps de jugement. Alors, je vais peut-être entrecouper la lecture de commentaires. On va le lire au fur et à mesure que je vais prêcher. Dieu exerce son jugement. C'est le titre que j'ai au chapitre 24. Voici que l'Éternel dévaste la terre et la dépeuple. Il en bouleverse la face, en disperse les habitants. Il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cette simple introduction ? C'est l'universalité de ce qui va arriver. Ce qui va arriver va nous toucher tous. Va nous toucher tous. Et il nous faut être prêts. Il nous faut être prêts. Ici, il n'y a pas de différence. Le jugement va tomber sur la terre. Et que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, que nous ayons participé au Téléthon ou pas, que on donne de notre argent régulièrement à des œuvres caritatives ou pas, que on ait une vie bien rangée ou que nous soyons en prison, c'est pareil. Vous savez pourquoi ? Parce que l'homme est foncièrement mauvais. Il a un cœur qui est foncièrement mauvais. Ça s'appelle le péché. Et à cause du péché, l'homme qui l'abrite, l'homme qui garde le péché en lui, n'aura pas d'autre choix que de subir ce temps de condamnation, ce temps de jugement. Parce que Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Parce qu'on va le voir, il a donné sa vie en la personne de Jésus-Christ pour l'amour du pécheur. Parce qu'il a prouvé son amour en allant à la croix pour nous. C'est la Bible qui le dit. Il nous aime. Et alors que justement, on a ces avertissements, c'est encore une preuve de son amour. Parce qu'il nous dit ce qui se passe, ce qui va se passer. Et il nous dit qu'ici, il y a une universalité, que nous soyons en responsabilité, que nous soyons au service, que nous soyons employés, que nous soyons patrons, que nous fassions partie des grands de ce monde, ou que nous soyons le pauvre clochard, c'est pareil. Le cœur de tous les hommes est pécheur, est privé de la gloire de Dieu, dit la Bible. Aussi, le jugement qui va tomber est universel. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, on en a Le résumé au verset 3. Le verset 3, c'est, on va dire, le résumé de tout ce qui va suivre. Alors, que nous dit, c'est un peu le titre. La terre est on est déjà au passé, c'est déjà arrivé, c'est réalisé. Pour Dieu, 1000 ans est comme un jour est comme 1000 ans, et ici, alors que le jugement n'est pas arrivé, ici le verset en fait état comme si c'était arrivé déjà. La terre est complètement dévastée, totalement pillée, car l'Éternel a prononcé cette parole. La terre, verset 4, est dans le deuil, épuisée. Le monde épuisé dépérit. Ils dépérissent les gens haut placés de la terre. La terre a été profanée par ses habitants, car ils enfreignaient les lois, altéraient les prescriptions, ils rompaient l'alliance éternelle. De quelle alliance ici s'agit-il ? D'une alliance de paix que Dieu avait établie avec les hommes. Cette alliance, elle avait été faite avec Noé à l'époque. Suite au déluge, un jugement était tombé. Et d'ailleurs, ce jugement, on va voir plusieurs allusions, une ou deux allusions justement au déluge. Suite au déluge, Dieu a fait une alliance de paix avec les hommes. Ce que Dieu veut n'a jamais changé pour les hommes et pour les femmes. Ce que Dieu veut, c'est notre bonheur. Il a des projets de paix, on peut le lire dans Jérémie, et non de malheur. Il ne veut pas que le méchant meure. Ça, c'est dans Ézéchiel qu'on le lit. Le Seigneur veut que nous puissions vivre pour l'éternité dans la paix, auprès de lui. Seulement, l'homme a refusé Dieu. L'homme a tourné le dos à Dieu. Et alors que l'homme savait ce qui pouvait peiner Dieu, il a fait le choix délibéré d'aller lui faire de la peine. Il a fait le choix délibéré d'enfreindre ce que Dieu avait défendu de faire. Et l'homme a pris un malin plaisir, entre guillemets, à pratiquer ce qui était en horreur à l'Éternel. Et c'est pour cela que finalement on se retrouve sous la conséquence de notre choix, parce que là encore, quand Dieu nous donnait un cadre, ce n'était pas pour nous dire « tu restes là, sinon tu seras puni ». C'est parce qu'il savait très bien que le jour où on déborde du cadre, eh bien, on va être sur un terrain dangereux pour nous. Et le Seigneur ne veut pas, je le redis, que nous meurions. Alors il nous a donné un cadre pour que nous soyons heureux, pour que nous puissions être en paix. Seulement quand on considère juste le conseil de Dieu et on le prend comme un commandement et qu'on se dit « mais moi je suis libre, je fais ce que je veux », alors finalement, on n'a pas le choix. Pour être honnête avec cette bête réflexion, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, comme des robots, on va sortir du cadre. Et que va-t-il se passer ? On va être sous les conséquences de notre mauvais choix. Et ici, c'est exactement ce qui va arriver, ce qu'on lit ici, il va y avoir une malédiction. Verset 6, c'est pourquoi la malédiction dévore la terre et ses habitants emportent la culpabilité. Pourquoi ? Mais parce que c'est leur choix. Le Seigneur n'a jamais voulu ces choses. Mais chacun portera les conséquences de ses propres choix. Chacun récolte ce qu'il sème. Ça, c'est une loi biblique, une loi contre laquelle on ne peut pas revenir. Nous faisons nos propres choix de notre vivant. Et ensuite, nous en porterons tous les conséquences. Celui qui aura fait le choix de vouloir connaître Dieu, ben il en subira les conséquences, mais des heureuses conséquences. Celui qui aura fait le choix de tourner le dos à Dieu, eh bien, en conséquence logique de son choix, aura pour l'éternité le dos tourné à Dieu. Mais avoir le dos tourné à Dieu, c'est bien triste. C'est bien malheureux, et encore, mes mots sont bien légers comparés à ce qui sera. Verset 7. Verset 6, je n'ai pas tout lu. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés et il ne reste qu'un petit nombre d'hommes. Là, on a le début d'une bonne nouvelle. On a le début de quelque chose qui nous dit que peut-être si la grande majorité des hommes et des femmes refusent Dieu, refuse ses prescriptions, refuse ses conseils, il y en a un petit reste, un petit rien qui donne à Dieu de l'importance. Et je pense que ce soir, nous en sommes tous de ce nombre, ce petit reste. Et on va voir ici quelque chose, là encore, on est sous la coupe d'une réalité, verset 7. Le vin doux, on peut comprendre aussi le vin nouveau. Certaines traductions le traduisent comme ça. Le vin doux est en deuil, la vigne dépérit. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. L'allégresse des tambourins a cessé. Le bruit des amusements a pris fin. Rappelez-vous qu'on est au passé parce que c'est une prophétie qu'on considère réalisée. C'est à ce moment-là, dans les temps difficiles. L'allégresse des tambourins a cessé, le bruit des amusements a pris fin, l'allégresse et la cithare a cessé. On ne boit plus de vin en chantant, les liqueurs sont amères aux buveurs. Ici, ça m'a fait penser à un autre texte dans le Nouveau Testament où, sous l'effusion du Saint-Esprit, les gens de Jérusalem accourent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin nouveau. Et il y a une comparaison. Et ici, le vin, c'est un symbole fort. Pourquoi il y a un focus à ce point sur le vin? Parce que la nouvelle alliance de laquelle nous sommes partis, nous faisons partie, c'est une alliance pour laquelle le vin a une signification très importante. D'ailleurs, quand Jésus élève la coupe, il dit « Ceci est la nouvelle alliance en mon sang ». Et qu'est-ce qu'il élève? Une coupe de vin. C'est une alliance nouvelle. Ce vin nous parle de plein de choses. Ce vin, il nous parle des souffrances du Seigneur, il nous parle de son sang qui va couler sur la croix, ce sang qui va sceller l'alliance, qui va sceller le pardon de Dieu pour quiconque croit, pour quiconque réalisant son péché, pour quiconque réalisant le fait qu'il soit loin de Dieu, qu'il a besoin de comprendre, qu'il a besoin, qu'il aimerait connaître Dieu un peu plus, qui un jour dans sa tête il réfléchit et qu'il se dit « Mais quand même, si Dieu existe, il doit entendre, si Dieu existe, il doit avoir de l'amour, un minimum !» Combien de personnes se disent ça en se désolant de voir des guerres? Mais ils n'ont pas compris une chose. C'est que les guerres ne sont que les conséquences du choix des hommes, parce que Dieu s'est imposé une limite qui est celle de notre propre choix. Donc tous ceux qui ont refusé Dieu en portent les conséquences, et malheureusement, en font porter à d'autres les conséquences de leur propre mauvais choix. Ces guerres, toutes ces choses, sont des conséquences de l'éloignement choisi de l'homme, sont des conséquences du péché. Mais Dieu, il a laissé l'homme libre. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert une nouvelle route à la croix du calvaire, sur cette montagne de Golgotha, cette montagne où Christ est mort, où il a donné sa vie. Et ici, l'alliance que Jésus met en place avec ce qu'on appelle la scène, le pain, le vin, notamment ici je parle du vin, il est question de la vie qu'il donne. Pour que nous soyons sauvés, que nous soyons pardonnés, que nous puissions être auprès de Dieu, que nous ne soyons pas sous le jugement que nous sommes en train de décrire. Ce vin doux, comme je l'ai dit tout à l'heure, rappelle aussi des gens qui, entre guillemets, on avait l'impression, ce n'était qu'une impression, qu'ils étaient ivres parce qu'ils parlaient des langues bizarres à 9h du matin. Le Saint-Esprit venait de descendre. Et il y avait quelque chose d'anormal qui se passait, mais des choses heureuses, parce que nous avons vu, à travers, quand on lit le livre des Actes, on voit comme une explosion. On voit des gens qui sont guéris, des démons qui sont chassés. On voit des gens qui font la paix avec Dieu. Il y a une effusion, il y a quelque chose de joyeux qui se passe quand même. Et finalement, aujourd'hui, on en est peut-être un peu éloigné de cette époque. Et même dans nos églises, on se dit, mais pourquoi ce qui se passait au temps des Actes, on ne le vit plus aujourd'hui? Eh bien, on a ici la réponse, le vin doux est en deuil, la vigne dépérit. On peut se poser la question, finalement, de l'état de nos propres cœurs, de savoir si, oui ou non, on recherche le Seigneur. Parce que moi, je crois quand même que, de manière individuelle, le Seigneur, il donne sa bénédiction à celui qui le cherche. Ça, c'est biblique. Donc, celui qui recherche Dieu, celui qui recherche l'Esprit de Dieu, celui qui passe du temps à demander au Seigneur, tu l'as promis, le Saint-Esprit, Seigneur, remplis-moi, eh bien, il sera rempli, parce que c'est biblique. Mais nous ne pouvons que constater que dans les églises, eh bien, on n'en est plus où 99% des chrétiens sont remplis et baptisés dans le Saint-Esprit. On est plus aujourd'hui dans une période où ce verset 7 prend vie, où on peut dire le vin doux est en deuil, la vigne dépérit, tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent, et voilà, c'est exactement ce qu'on entend. Seigneur, on soupire après ce temps-là. On aimerait le revivre, ce que les apôtres ont vécu, Seigneur, on aimerait le vivre. Mais nous sommes dans un temps particulier. Je ne dis pas que ça ne peut pas ne pas arriver, mais il faut que nos cœurs soient bien disposés. Il y a plein de raisons qui peuvent faire en sorte que nous passons par là. Bref, ce temps-là, ici, on voit que ça fait partie de l'état du peuple, et peut-être du peuple de Dieu ici qui est dessiné, au moment où le jugement tombe. C'est l'état de l'Église, peut-être, au moment où le jugement tombe. Le Seigneur Jésus, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi ? Il pose la question, quand même. Continuons un peu. Verset 10. La ville désertée est démolie. Ici, le mot qui est décrit en hébreu, pour ce mot-là, la ville désertée, c'est un mot qu'on ne trouve que dans la Genèse, qui est Tohu. Vous connaissez l'expression ? C'est un vrai... Vous connaissez l'expression ? Tohu ou Tohu Bohu. C'est un Tohu Bohu. En gros, c'est un grand bazar. On parlait d'errer tout à l'heure. On chantait le fait que quand on ne connaît pas Dieu, on erre. Eh bien, on n'a aucune direction. La ville est désertée. Voilà, finalement, encore ici, une description où on retrouve en filigrane ce que Jésus dit dans le Nouveau Testament. Il en sera comme au temps de Noé. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Personne n'a de règles. Aujourd'hui, il n'y a plus de règles. On ne sait plus d'ailleurs. Chacun fait son choix. Et chacun porte les conséquences de son choix. Parce que ça ne changera jamais. Hein. Ça ne changera jamais. Celui qui n'instruit pas son enfant, eh bien, il ne faudra pas qu'il s'étonne si quand il va grandir, il devient de plus en plus difficile à gérer, parce qu'il n'aura jamais été instruit. Il n'aura jamais su ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Il n'aura jamais connu ce qu'est quelque chose d'équilibré. Un enfant, il a besoin de se sentir, de savoir les bornes. On a tous besoin. Si nous, on en a besoin, pourquoi nos enfants n'en auraient pas besoin ? Le fait de laisser tout faire. Aujourd'hui, c'est les enfants qui décident. Et ça, je parle dans le domaine de l'éducation, mais quel que soit le domaine, c'est pareil. On refuse tout. On est dans un grand bazar. Un grand bazar. Ça devient de plus en plus difficile. On va poser la question à nos ministres, mais gouverner devient vraiment de plus en plus difficile. Et voilà encore quelque chose qui nous montre simplement la société d'aujourd'hui. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. On crie dans les rues parce que le vin manque. Toute joie s'est assombrie. L'allégresse est bannie du pays. On voit quelque part que même l'Église qui est censée briller ne brille plus autant qu'avant. Parce que le vin manque. Le vin manque. On en est là. L'Église qui devrait être une lumière, l'Église qui devrait être dans la ville, quelque chose qui fait bouger la ville, eh bien, c'est plus le cas aujourd'hui. Je ne suis pas dans un pessimisme, un défaitisme. Il faut juste réaliser que cette parole, elle est écrite quand même. Et que Dieu ne nous le dit pas pour que on soit dans le pessimisme. Dieu nous le dit pour qu'on ait les yeux ouverts sur ce qui se passe. Qu'on puisse comprendre, saisir que les prophéties sont écrites et elles sont là pour que justement on puisse, comme je disais en introduction, relever la tête quand on verra toutes ces choses. Parce que ça veut dire que le moment où notre Seigneur revient approche. Je continue. Verset 12. La dévastation est restée dans la ville et les portes abattues sont en ruine. Car il en est dans le pays au milieu des peuples, comme lors du gaulage de l'olivier, comme lors du grappillage, quand la vendange est finie. Alors ensuite, au verset 14 jusqu'au verset 16, enfin, on va voir deux catégories de personnes. Au verset 14 et 15, il y a une première catégorie de personnes. Mais ceux-ci élèvent leur voix. Ils poussent des acclamations. De l'ouest, alors il y a un focus dans la prophétie sur Israël, donc c'est de ceux qui sont au bord de la mer, sur les îles du couchant, ils poussent des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. Le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. Ici, les questions de la lumière, c'est intéressant parce que tout à l'heure, on a parlé du Bohu, et dans la Genèse, juste avant le premier jour, qu'est-ce qu'il y a au premier jour ? La lumière. Et avant, c'était le grand bazar. Et ici, on voit que malgré tout, dans cette humanité que nous vivons, dans ce contexte où on peut vivre, où on pourrait s'inquiéter, on pourrait dire, être super pessimiste, eh bien, il y en a quand même qui ont leurs yeux ailleurs que sur ce qui se passe. Et il y en a qui ont fait une expérience avec Dieu, et il y en a qui ont connaissance peut-être des textes bibliques et qui vérifient que Dieu avait vraiment tout prévu. Il savait les choses et il nous les a annoncées à l'avance pour que nous ne soyons pas découragés, pour que nous puissions justement avoir ce vrai point d'appui dans les temps difficiles que nous vivons. Le Seigneur, il y a un truc que je lisais dernièrement, vous savez. Vous savez quand est-ce que Noé a eu ses enfants ? Sem, Cham et Japhet. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps, j'ai dit, tiens, c'est pas mal. Vous savez pas ? Il a eu ses enfants alors qu'auparavant, il avait reçu la prophétie que Dieu allait détruire la terre. C'est touchant quand même, parce que Noé, il sait que Dieu va envoyer le déluge sur la terre. La preuve, il a entrepris des travaux de construction. Mais il va avoir ses enfants après. Ce qui quelque part, montre que ce que Dieu a dit à l'homme, multipliez, soyez féconds, eh bien, malgré les projets qu'il peut y avoir, eh bien, on reste, nous, sur ce que Dieu nous a dit. Et quand j'entends, justement, des remarques du style « Ah, mais par les temps qui courent, est-ce que vous êtes sûr que c'est le moment d'avoir des enfants ? Moi, je serai vous, j'en ferai pas. » Un chrétien, il ne se soucie pas de ce qui se passe au dehors. Il sait qu'il est à l'abri, à l'ombre du Tout-Puissant. Et il sait que malgré tout, il peut avoir une famille, il peut avoir des enfants. Et que même si tout autour, ça va pas, eh bien, il sait que lui, malgré tout, il pourra connaître le bonheur de sa famille. Il pourra connaître peut-être le bonheur de voir ses enfants grandir. Parce que le chrétien, il regarde pas la météo pour savoir s'il doit aller bien ou s'il doit aller mal. Le chrétien, lui, il regarde au soleil qui brille, le Seigneur lui-même, qui justement est celui par lequel nous pouvons, quelle que soit la météo du dehors, garder justement cet espoir, garder justement cet appui bien ferme, parce que Dieu nous a tout donné, il nous a tout laissé. Et à l'instar de Noé, qui va avoir des enfants alors qu'il a eu l'annonce, eh bien, nous, de même. On avance dans notre vie de tous les jours. Même si on sait qu'on vit des temps difficiles, eh bien, qu'à cela ne tienne, Seigneur, nous comptons sur toi. Et c'est vers toi que nous regardons. C'est l'image de ces peuples-là qui sont décrits, qui, malgré la situation difficile, compliquée, eh bien, ils ne baissent pas les bras. Et comme Jésus nous l'a dit, ils relèvent la tête. Ils savent. Que c'est le moment où le Seigneur va revenir. Certes, il y a de quoi s'inquiéter peut-être, mais les chrétiens, ce n'est pas à ça qu'ils regardent. Les chrétiens, ils regardent à Dieu. Parce qu'ils ont cette paix. À toi peut-être qui écoutes sur Internet, eh bien, Est-ce que tu as la paix ou pas dans ton cœur? Effectivement, tu peux t'inquiéter si tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Mais si tu as fait la paix avec Dieu, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il n'y a rien à craindre par ce qu'il vit, comme dit le chant. Le Seigneur, eh bien, est pour nous une haute retraite, comme l'écrit le psalmiste. On continue. Il y a deuxième catégorie de personnes, justement. De l'extrémité de la terre, nous entendons des chants, honneur au juste. Mais moi, je dis, là, on est dans la peau de celui qui n'a pas fait le bon choix. Je suis perdu. Je suis perdu, malheur à moi. Des traîtres trahissent. Trahison, des traîtres trahissent. La frayeur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant de la terre. Celui qui fuit au fracas de la frayeur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse est pris au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent, et les fondements de la terre sont ébranlés. Ici, on va voir justement le jugement qui tombe sur tous ceux qui ne se sont pas réfugiés auprès du Seigneur. La terre se fissure, et là on pourrait presque dire que ça commence bien. D'année en année, il y a toujours plus de tremblements de terre. La terre craque, la terre est secouée, la terre titube comme titube l'ivrogne. Elle vacille comme une cabane, son crime pèse sur elle. L'homme n'est que poussière, je vous rajoute. Il n'est que poussière, il est tiré de la poussière. Et le péché est dans le cœur de l'homme, le péché est dans la poussière. C'est pas étonnant que la terre soit maudite au même titre que l'homme. L'homme n'est que poussière, c'est de là qu'il vient. Donc l'homme, en ayant été maudit, a porté tout naturellement la malédiction sur la terre. Parce que le péché, celui qui a commis des péchés il y a longtemps et qui est retourné à l'état de poussière, eh bien la poussière, elle est dans le péché quelque part. La terre, elle est souillée par le péché qui est dans le cœur de l'homme. Et elle a pour destination, justement, le jugement de Dieu. Son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. En ce jour-là, l'Éternel châtiera là-haut l'armée d'en haut. Et sur la terre, les rois de la terre. Ici, c'est assez intéressant de voir, justement, où on voit les êtres invisibles et les êtres visibles se rassembler au moment du jugement. On sera tous jugés. Tous. Et finalement, suite à ce jugement, que ce soit des êtres célestes ou des êtres terrestres, tous seront mis, eh bien, du moins ceux qui seront coupables, ils seront rassemblés. Et ceux qui seront justes seront aussi rassemblés, dans un autre endroit, bien sûr, parce que nous serons pour l'éternité auprès du Seigneur. Concernant ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, on les ramassera, verset 22, comme une masse de détenus dans une fosse, ils seront emprisonnés, je rajouterai, ensemble, dans une prison. Et, après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Ici, les questions du millénium, du temps où le Seigneur mettra pour 1000 ans un royaume de paix sur la terre. Mais tous ceux qui n'auront pas fait le choix de mettre leur vie en règle avec Dieu seront comme emprisonnés. Ils seront châtiés. La lune sera confuse, le soleil aura honte. Pourquoi on parle de la lune et du soleil? Parce qu'à l'époque, ils étaient adorés comme des dieux. Car l'Éternel des armées règne. Ce n'est pas le soleil ou la lune qui règne, c'est l'Éternel. Sur la montagne de Sion et à Jérusalem, la gloire sera en face de ses anciens, ceux qui auront choisi de mettre leur vie en règle avec Dieu. Ils verront Dieu face à face. Ici, dans cette simple phrase, on a une référence à un autre verset qui dit « Nul ne peut voir ma face et vivre ». C'est Dieu qui dit ça. Et ici, il est question, la gloire sera en face de ses anciens. On verra Dieu face à face. Ceux qui auront fait la paix avec Dieu, ceux qui auront demandé pardon pour leurs péchés, ceux qui auront compris que Dieu voulait les aimer, et il n'a jamais changé d'avis. Il a toujours aimé l'homme, même dans son péché, même au plus bas. Il tend encore en ce moment sa main à celui qui désire réfléchir, à celui qui désire se repentir de son péché. Le Seigneur lui tend la main. Oui, le péché va être détruit, mais en attendant, il peut être pardonné. Parce que le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour cela. Et alors qu'il nous tend la main, ne rajoutons pas un péché supplémentaire en la méprisant. Le Seigneur est mort pour nous. Et ici, on peut lire quelques versets du chapitre 25 à partir du verset 6. Qu'est-ce qui attend ? C'est là où on voit la victoire totale de Dieu. L'Éternel des armées fera pour tous les peuples sur cette montagne, il est question de la montagne de Sion, un festin de mets succulents, un festin de vins vieux, de mets succulents, plein de moelle, des vins vieux, clarifiés. Je partageais pour ceux qui étaient là ce midi, que c'est tous ceux qui sont issus de la nouvelle alliance, le vin nouveau, et qui ont été mis, entre guillemets, à vieillir dans le temple. Le vin nouveau était stocké dans les chambres du trésor du temple, et le temps qu'ils ressortent, les vins, naturellement, auprès de la présence de Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils vieillissaient. Ils vieillissaient. Et au moment où le festin aura lieu, ces vins-là vont ressortir. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Là, il y référence à la victoire totale du Seigneur quand il meurt sur la croix du calvaire. C'est sur la montagne où le Seigneur est mort. C'est à ce moment-là que le voile est déchiré. C'est à ce moment-là que l'homme a accès à Dieu. Alors qu'avant, il fallait passer par un intermédiaire. Maintenant, l'intermédiaire, c'est le Seigneur. Et par le Seigneur Jésus, par son nom, on peut s'approcher de Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Je réalise maintenant que tu es mort pour moi sur la croix du calvaire. Aussi, je veux m'approcher de Dieu. Comme c'est écrit dans la parole, je peux m'approcher avec assurance parce que j'ai un cœur sincère. Je réalise mon péché. Je réalise que j'ai besoin de Dieu. Je veux m'approcher et je ne veux pas être avec ceux qui seront mis de côté. Seigneur, prends-moi. Ramène-moi auprès de toi. Je termine sur ce verset 9. En ce jour, l'on dira, voici notre Dieu. C'est en lui que nous avons espéré. Et c'est lui qui nous a sauvés. C'est l'Éternel en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Le Seigneur, il fait vivre ces choses à ceux qui lui appartiennent. Quand bien même les temps sont difficiles, un vrai chrétien, un chrétien authentique, eh bien, je dis pas que il est jamais triste. Mais à l'intérieur, il y a quand même une joie selon le Seigneur. Il y a une paix, parce que c'est comme ça. Un chrétien qui a fait la paix avec Dieu, il expérimente cette paix au jour le jour. Il est dans la joie, la grande espérance de l'attente du salut, de l'attente de ce jour où le Seigneur reviendra. Il n'a pas peur de la mort, parce qu'il sait que quand ce jour va arriver, c'est une porte pour aller encore plus près du Seigneur. Le chrétien, il attend dans la paix, dans une attente paisible, et les circonstances de cette vie n'ont pas d'emprise sur lui. C'est là le bonheur du chrétien. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vous aide. Si jamais vous n'avez pas fait ce choix de suivre le Seigneur, combien vous avez tout à gagner en ayant dans votre cœur celui qui a donné sa vie pour vous, celui qui vous aime et celui qui veut faire en sorte que dans ces temps que vous vivez, eh bien, vous puissiez les traverser dans la paix de Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci parce que tu as tout donné pour nous. Tu as donné ta vie pour notre salut. Et alors que nous pouvons traverser des temps difficiles dans nos vies, alors que nous voyons les circonstances de ce monde en pleine débâcle, qui pourrait nous attrister. Nous, c'est pas ces choses que nous regardons. Mais nous sommes heureux de savoir que tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est toi qui nous l'as dit. Et c'est encore un point d'appui pour nous. Parce que nous sommes certains de ce que nous faisons, de là où nous allons, parce que tu es avec nous. Merci Seigneur pour tes promesses. Merci Seigneur pour tous ces avertissements qui nous montrent ce que tu fais. Merci parce que tu nous expliques ce que tu fais. Tu n'es pas obligé et tu le fais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce de tout notre cœur. Gloire à ton nom. Amen.